8h31, exactement l'heure de retrouver celui qui a lu la presse et qui vous la raconte chaque matin. Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Dans la presse du jour, méfiez-vous des contrefaçons.
Distinguer le vrai du faux, c'est le grand enjeu démocratique du moment et probablement de l'avenir. Dans l'immédiat, c'est le combat des douanes françaises qui ont saisi 40 millions de faux produits au cours des trois dernières années. Le Parisien indique qu'à l'approche des Jeux Olympiques, avec l'explosion attendue du marché des produits dérivés, le dispositif de lutte sera renforcée, notamment sur les réseaux sociaux. 70 cyber-enquêteurs seront chargés de remonter les filières. Aucun secteur n'est épargné. Le luxe, les jouets, les cigarettes, bien sûr, mais aussi les vaccins, les cosmétiques, les vins ou les sodas. Et même désormais, figurez-vous, les semi-conducteurs et le nucléaire.
Le Parisien souligne l'impact de cette fraude industrielle sur l'économie.
Oui, le commerce des contrefaçons, c'est évidemment du chiffre d'affaires en moins pour les entreprises qui fabriquent les vrais. C'est aussi une perte de recettes fiscales pour l'État, donc pour nous tous. Le Parisien ajoute que c'est aussi parfois une source de danger sanitaire ou un enjeu environnemental. Et le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, signale en outre dans le journal que acheter un faux, c'est participer au financement d'organisations criminelles et terroristes. La contrefaçon constituerait la deuxième source de financement du crime dans le monde, derrière le blanchiment d'argent, mais devant le trafic d'armes et le trafic de drogue.
Alors celui-là n'est pas contrefait, c'est le vrai Vladimir Poutine, qui a prononcé son discours annuel à la Nation hier. Il y a carrément brandi la menace d'une guerre nucléaire.
L'ultime provocation, titre en une les Échos, ça ne veut pas dire que c'est la dernière, mais que Poutine aura du mal à aller plus loin. Le président russe a d'ailleurs parlé de menace réelle, sans doute pour dire ce qu'il pense de celle d'Emmanuel Macron qui vient d'évoquer l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Poutine est aussi en première page du Figaro, des dernières nouvelles d'Alsace, du Dauphiné libéré et de Midi libre. Face à l'Occident, Poutine joue la menace, résume Libération. Les Échos soulignent que si ce discours est fait pour inspirer la peur, il sert aussi à masquer les faiblesses de la Russie. Son armée manque de matériel, son économie est affaiblie par la guerre et les sanctions. Même les banques émiraties et chinoises commencent à refuser des transactions, signalent les Échos.
Et pendant ce temps-là, au Parlement européen, Vladimir Poutine compte encore des soutiens importants.
Le courant pro-russe a même le vent en poupe en Europe. Les formations politiques qu'il incarne, d'extrême droite pour la plupart, se réunissent au sein du parti européen Identité et Démocratie. On dit ID comme une drôle d'idée ou comme des idées noires. Et Le Monde observe que le futur groupe ID pourrait devenir, après les élections de juin, la troisième force au Parlement européen. Marine Le Pen et Jordan Bardella siègent au bureau de ce parti, auquel vient d'adhérer un parti bulgare notoirement pro-Poutine, rejoignant ainsi le FPO autrichien, qui vote contre toutes les sanctions envers la Russie, et aussi l'AFD allemande et le Fidesz du président hongrois Viktor Orban. Marine Le Pen peut-elle nier toute complaisance avec le régime poutinien et se choisir pour allier ses têtes de pont en Europe, questionne Le Monde. La réponse est peut-être dans la question.
En France, Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Il a inauguré hier le village olympique à Saint-Denis, on vient d'en parler, avec le préfet de région Marc Guillaume. Et il veut lancer, le président, un autre chantier, celui de la simplification administrative.
Macron à l'assaut de la bureaucratie, c'est en effet la manchette de l'Opinion. Le quotidien libéral relève que pour bâtir le village olympique ou reconstruire Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron s'est appuyé sur des lois d'exception et le journal rêve que le procédé se généralise à l'ensemble du pays. Arrêtez d'emmerder les Français, disait Pompidou, on le sait. En Écho, l'éditorialiste de l'Opinion, Rémi Godot, pousse ce cri. C'est le Moloch administratif qu'il faut emmerder. Le Figaro, lui, se demande si le danger principal n'est pas que le président décide d'augmenter à nouveau les impôts. Résistera-t-il aux pressions ? Se demande avec angoisse le journal en une. Réponse un peu plus loin, dans le même Figaro, Macron résiste aux sirènes des hausses d'impôts. Ouf, on s'est fait peur pour rien.
Il y a la une du Figaro et puis il y a la une des pages saumon du Figaro. La citation de Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, est aussi en couverture du magazine Challenge cette semaine.
Le fait qu'un journal fasse son gros titre avec une formule qui date de près de 60 ans, puisque Pompidou a dit cela en 1966, eh bien ça montre que le problème reste d'actualité. Challenge a compté 667 lois, 665 ordonnances et 7451 décrets depuis 10 ans qui donnent à chaque chef d'entreprise, écrit le magazine, un exemple de règle ubuesque traînée comme un boulet. Le magazine Challenge s'amuse donc à rappeler les sentences définitives prononcées par tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Je ne vous les cite pas toutes, mais par exemple, Valéry Giscard d'Estaing en 1978, la marée blanche de la paperasse doit être refoulée.
Pas mal, hein, la marée blanche pour du papier. C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. Chirac, en 2002, souhaitait un Grenelle des simplifications. Sarkozy lançait en 2011 le chantier des simplifications. François Hollande, en 2013, en faisait un choc de simplification, au singulier et non au pluriel. Visiblement, ce n'était pas si simple.
Maintenant, on parle de débureaucratisation.
C'est la même chose.
C'est la même chose, mais le terme est un peu plus fort. Ce qui n'est pas très compliqué pour un président français, c'est de se mêler de tout.
Oui, et c'est peut-être l'explication d'ailleurs entre bureaucratie et autocratie. Nos présidents ont tendance à choisir la deuxième option. Un article savoureux le confirme sur le site de l'Express. On y apprend qu'Emmanuel Macron s'occupe lui-même de la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des JO. Pour l'embrasement de la vasque, avec la flamme olympique, il cherche une idée aussi émouvante que ce moment où, en 1996 à Atlanta, Mohamed Ali, malade de Parkinson, brandit d'une main tremblante le feu sacré olympique. Le président a, paraît-il, revu toutes les cérémonies d'ouverture sur le site de l'INA et il a reçu récemment la chanteuse Aya Nakamura qui devrait donner de la voix ce jour-là. Il lui a suggéré, même peut-être un peu plus, de rendre hommage à la variété française patrimoniale. Qu'aimez-vous comme chanteur, lui a-t-il demandé. Elle lui a dit qu'elle aimait Édith Piaf. Eh bien, chantez ce que vous aimez, a ordonné le président. Voilà qui risque de ne pas encourager la lutte contre la contrefaçon.
Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui
s'élance. Ah, ça c'est la vraie. Hein.
C'est la vraie,
c'est pas une contrefaçon.
Mais moi j'ai une idée. Vous prenez un peu d'intelligence artificielle, un hologramme et vous ressuscitez Édith Piaf. Et vous faites une chanson d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques ultra technologique à la française, faut y réfléchir.
Bon, autant écouter la vraie, non ?
Bah oui, mais enfin, on peut écouter la vraie, sauf qu'on l'a pas sous la main, la vraie, en direct. Mais un duo Aya Nakamura, voilà, avec Édith Piaf en hologramme.
Ne parlez pas de malheur.
Il faut être créatif. J'imagine qu'on ne manque pas d'idées au comité d'organisation. Merci à Vega Tegno, je vous dis à lundi. Dans un instant, il ne manque pas d'idées non plus. C'est Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani de Slate. Ce sont nos esprits libres du vendredi Radio Classique. Il est 8h.